Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Yo, c'est Saoud. On est sur le podcast de Porte-Monnaie. On parle d'argent et qui dit argent aujourd'hui dit industrie du cannabis. On va en parler avec un pro du domaine, un entrepreneur du secteur, Phil De Pau, qui va nous en dire beaucoup et auquel on va dire pas mal de choses aussi. Ce qui nous amène à discuter aujourd'hui est une histoire assez singulière qui a battu une vocation. Celle d'un jeune athlète, Phil De Pau, qui a traversé le monde de compétition en compétition sur son vélo de montagne. À 22 ans, le sport de haut niveau dirigeait sa vie et se prédestinait à suivre ce chemin. Mais il en a été autrement. Il attrape un virus dans l'avion après un camp d'entraînement en Nouvelle-Zélande et il se retrouve atteint de fibromyalgie. Douleurs chroniques, spasmes musculaires, crampes intestinales, troubles du sommeil, asthme. Bref, que des complications et la fin d'une carrière sportive prometteuse. Les médecins lui prescrivent bien sûr des pilules, mais rien n'y fait. Un soir, il fume un joint avec un ami, tranquille, posé sur le canapé. Le lendemain, il remarque qu'il a bien dormi pour la première fois en quelques mois et que ses douleurs sont atténuées. Voilà son traitement. Il décide même d'en faire son mode de vie. Comme le sport hier, le cannabis sera sa voie. Il lance Maitri, une entreprise qui vend des accessoires et promeut un style de vie décomplexé autour du cannabis. Aujourd'hui, le cannabis se prépare à être légal partout au Canada à partir du 17 octobre. Après des années de guerre coûteuse contre la marijuana, de propagande à la Reefer Madness, de prison pour la simple inhalation d'herbe, nous voilà à l'ère du légal et de l'industrialisation du weed. Face à cela, que des questions en attente de réponses. Comment se présentera l'industrie au Québec? Comment vont évoluer les prix? Qui peut produire? Le marché noir va-t-il disparaître? Quel effet sur l'environnement, sur les jeunes? Et derrière ces airs détendus, l'industrie du cannabis n'est-elle qu'une industrie comme une autre, désintéressée et avide de profit? On va en discuter avec Phil De Pau.
C'est dans l'une des 15 succursales de la Société québécoise du cannabis et seulement là que les consommateurs pourront se procurer du cannabis en toute légalité. La vente en ligne sera aussi permise. Il faudra 18 ans pour s'en procurer. Et oubliez les muffins aux potes. Les produits dérivés ne seront pas autorisés, tout comme la culture personnelle.
La légalisation du cannabis pourrait rapporter quelque chose comme 5 milliards de dollars par année au gouvernement fédéral.
Une des raisons pour laquelle je suis pro-légalisation, c'est que justement, ça va nous permettre d'éliminer beaucoup plus l'accès aux jeunes à la marijuana.
Salut Phil.
Salut Saoud, comment ça va?
Très bien, et toi?
Super, yes.
Ok, fait que, parle-nous de Maitri. Ce que vous faites, pourquoi vous le faites?
En fait, correction par rapport à l'introduction, Maitri, on a commencé avec une gamme d'accessoires. Tous nos accessoires sont fabriqués à la main au Québec. On travaille avec des artisans locaux. On parle d'ébénistes, de céramistes. Et puis, en fait, on a designé la gamme d'accessoires nous-mêmes. Eux autres les fabriquent. Donc, plusieurs ébénistes, plusieurs céramistes à travers la province qui collaborent avec nous. Mais ensuite de ça, notre vision s'en allait beaucoup plus loin que ça. Nous, en fait, on voyait justement la légalisation arriver. Et on part sur la base. Nous, ce qu'on voulait, c'est bâtir une marque de cannabis qui a une gamme d'accessoires, mais qui a aussi les produits de cannabis qui vont venir plus loin avec la légalisation. Sous le même titre, en fait, que lorsqu'on va à l'épicerie, on n'achète pas du houblon, on achète bien une O'Garden, une Corona, une Heineken. Quand on va aller à la SQDC, la Société québécoise du cannabis, on va rechercher cette même marque qui nous interpelle en termes de produits, en termes de consistance, en termes de qualité. Et donc, nous, on martèle, en fait, sur ce point, parce que Maitri sera une marque. Donc, on aura plusieurs produits disponibles à la Société québécoise du cannabis à un certain point dans les prochains mois, années. Et puis, on parle d'herbes sèches, on parle d'huile infusée de cannabis. Et lorsque la loi va s'assouplir, on parle aussi de tous les produits dérivés, communément appelés les edibles, qui vont venir, petit à petit dans le processus de légalisation, qui seront inclus dans la marque de Maitri.
OK, donc vous comptez vous lancer en production ou juste distribution?
En fait, la façon dont ça fonctionne, mon partenaire et moi, on voulait donc transformer et faire évoluer l'entreprise comme une marque de cannabis. Il y avait deux options pour se rendre là. La première, c'était soit qu'on appliquait pour à Santé Canada pour notre licence de production, on l'obtenait, on avait donc notre serre et là on pouvait cultiver notre cannabis. Ça, par contre, c'est un chemin qui était complètement différent du modèle d'affaires dans lequel on se dirigeait. C'était plus notre deuxième option. L'autre option, en fait, c'était de se faire acheter. C'était de trouver quelqu'un au Québec, ailleurs au Canada, qui allait reconnaître que le marché québécois était une très belle opportunité à venir chercher. Et puis, qui avait, en fait, pour bien réussir dans le marché québécois, ça prend des Québécois. Ça prend des Québécois qui sont capables de parler authentiquement au Québécois. On peut pas juste traduire de l'anglais au français. Donc, on est allé trouver, en fait, le timing was right. On s'est fait acheter par une compagnie basée à Toronto, une compagnie 100% canadienne qui s'appelle Haiku. H-I-K-U. Haiku, en fait, eux autres ont des sites de production, ont la même vision que nous quant au branding, quant à le but de bâtir une marque sur laquelle on bâtit une réputation. Et donc, eux autres sont venus nous chercher. Par contre, en vendant l'entreprise, mon partenaire et moi, on restait 100% à l'emploi. On est encore engagé à temps plein. Et puis, maintenant, on continue simplement à évoluer la marque comme on le souhaitait avec le rêve de devenir une marque de cannabis.
Donc, on va un peu revenir en arrière, à cette époque sombre où le cannabis était encore interdit. Pourquoi le cannabis était interdit? C'était quoi le climat qui permettait cela?
Il y a beaucoup d'idéologie, en fait, et pas assez de science derrière la prohibition du cannabis. C'est parti, en fait, dans le mouvement sous la présidence de Nixon aux États-Unis, qui, voyant, en fait, des parts de marché se faire voler par le chanvre, le cannabis, dans ce temps-là, était un médicament très utilisé qu'on voyait les pharmaceutiques qui se faisaient voler aussi des parts de marché. Donc, vraiment un climat de peur qui a été amené par la présidence des États-Unis pour en fait convaincre la population que le cannabis rendait fous les Mexicains et les Noirs qui jouaient du jazz dans les bars. Et ça a été vraiment en martelant sur le mot marijuana. En fait, le mot marijuana dans ce temps n'existait pas avant la présidence de Nixon et on appelait ça purement du cannabis, c'était du cannabis médical. Donc, on a changé le nom pour créer ce climat de peur-là et la prohibition est arrivée. On a été capable de rendre le cannabis criminel et de ce même climat de peur-là en fait vit jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait en sorte que en ce moment beaucoup de gens en fait croient encore à ces idéologies là, mais on voit justement ce changement là et heureusement en fait très fier d'être Canadien, où est-ce que notre pays a décidé de reconnaître que tout un peu le climat faux qui pouvait entourer ça, puis d'amener plus de lumière là-dessus.
Parfait. Et puis il y a eu ce film Reefer Madness en 36. Qui c'est quoi? C'était une opération de relations publiques pour faire peur aux gens, puis dire que c'est ça, les Noirs et les Mexicains attaquaient le monde une fois qu'ils avaient fumé un petit.
Voilà, ce film-là, en fait, on l'écoutait puis on était convaincus que le cannabis allait nous rendre complètement fous, que on disait que les hommes qui consommaient ça allaient violer leurs femmes, que justement les Noirs dans les salons de jazz allaient tuer tout le monde et que les Mexicains allaient virer fous. Donc c'est vraiment un gros stunt de propagande ce film-là. Ça reste encore en fait très enraciné encore dans la façon de beaucoup de Québécois pensent.
Malheureusement, c'est passé. Donc, on revient à la lumière et on va parler business. Comment va se présenter l'industrie au Québec? C'est-à-dire, on sait que ça va être un modèle public, mais c'est quoi les particularités de notre modèle public autour de la SQDC, la Société québécoise du cannabis?
Juste pour faire un plus gros recap, tout ce qui est la juridiction au niveau de la culture de cannabis et de niveau fédéral. Ensuite de ça, comment la vente et la distribution allaient être implantées, c'était à chacune des provinces de décider le modèle qu'ils préféraient. Chaque province il n'y a pas une province qui est pareille au Canada, le Québec ayant son modèle très unique en soi. Donc, on s'en va vers un modèle gouvernemental, public, où est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui met la main sur vente et distribution. Ça se passera via les Sociétés québécoises du cannabis, qui est une filiale qui appartient à la SAQ, mais qui a tout son board of directors, c'est juste le mot en anglais, où est-ce que indépendant. Et puis, En fait, ces succursales-là seront, il y aura une vingtaine de succursales disponibles dès le 17 octobre au Québec, avec le nombre qui est publiquement dit là, qui devrait atteindre la centaine d'ici la fin de 2019. Et il y aura aussi un site Internet. Dans le fond, le gouvernement du Québec mise beaucoup sur son site Internet pour faire le maximum de transactions, faire bouger justement le marché noir et amener le cannabis légal. Donc ensuite de ça, comment le Québec est allé? Ben il y a beaucoup là de politique dans cette décision là. On a les libéraux en fait qui sont à la tête, on a les élections qui arrivent bientôt. Donc il pourrait avoir encore beaucoup de changements. Le Québec a décidé d'aller vers un modèle à but non lucratif, donc non commercial, pour légaliser une industrie de plusieurs milliards de dollars, qui est à mon sens une décision que je comprends pas. Je peux pas l'expliquer, ce choix-là. Il y a un fantasme au Québec sur le débat de la santé publique en environnant le cannabis que je ne suis pas capable de comprendre et qui est assez isolé par rapport au reste du Canada, qui a poussé en fait à prendre cette décision-là. Le gouvernement du Québec, les libéraux, se cachent un peu derrière leurs relations, ils ont fait beaucoup de consultations publiques et des gens en fait ont pris parole durant ces consultations publiques là pour un peu soulever beaucoup de concerns. Encore une fois, je fais le lien avec Reefer Madness, je fais le lien avec la prohibition et ces idéologies là, on les voit encore et je crois que le modèle que le Québec est en train de planter est encore basé sur un modèle prohibitionniste.
Je vois, mais évidemment je vais faire le mais et je vais être le gars qui fait l'avocat du diable. L'industrie, d'après ce que je lis là, j'ai un rapport de New Frontier Data qui dit que l'industrie au Canada va être autour de 9 milliards de dollars canadiens d'ici 2025. Le fait que le gouvernement contrôle toute la production, la distribution, tout ça, est-ce que justement ça ne permet pas que cette industrie soit mieux institutionnalisée, qu'il n'y ait pas de dérive vis-à-vis de l'avidité de profit que pourraient avoir certaines entreprises?
Je crois pas. En fait, je crois que les profits vont être les mêmes, que ce soit le privé ou que ce soit le public. En fait, juste une petite notion, le gouvernement du Québec ne met pas la main et le gouvernement fédéral ne met pas la main sur la production. La production reste privée partout au Canada. C'est uniquement la vente et la distribution qui, au Québec, a décidé d'être un modèle public. À ce niveau-là, après ça, est-ce que le Québec a vraiment besoin de mettre ses mains partout? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, quelque chose de très hypocrite? Une semaine après avoir annoncé le modèle public du cannabis, on annonçait l'idée de privatiser la SAQ. Quelle hypocrisie à mon sens. Si on a fait le test de rendre l'alcool public et là qu'on se rend compte que le meilleur modèle c'est d'aller privé, ben pourquoi on fait pas tout de suite le premier pas vers le cannabis? Ça a été aussi, si on regarde les études au Colorado, si on regarde les études en Californie, on se rend compte que partout là-bas, en fait, c'est tout est privé. Puis le contrôle au niveau de 18 ans et plus, le contrôle au niveau du marché noir se fait très très bien. On a simplement besoin d'avoir un bon modèle. On a besoin. Ce que le Québec devrait investir, c'est pas dans des boutiques gouvernementales, c'est dans un système d'audit. Devrait avoir des inspecteurs, devrait être capable justement d'avoir un modèle privé et d'avoir après ça un modèle d'inspection gouvernementale qui s'assure que tous ces gens-là contrôlent bien, font bien leur démarche. Et puis si tu fais faux pas, si tu fais fausse route, mais là on t'enlève ta licence automatiquement. Et comme ça, on va avoir un bon screening, puis on va être capable justement de garder une très belle qualité au niveau de notre entrepreneuriat et aussi au niveau du produit puis de comment l'industrie se développe.
Bah justement, les grands joueurs du cannabis au Canada, est-ce que tu peux nous faire une petite map, petite carte de tout de l'industrie aujourd'hui?
Dans le fond, l'industrie s'est privatisée. L'industrie du cannabis médical s'est privatisée en 2014 sous le règne des conservateurs. C'est à partir de là qu'on a développé un modèle capitaliste autour de l'industrie du cannabis. Et donc, il y a des gros joueurs qui se sont positionnés dès le jour 1 pour aller chercher le maximum de licences de cannabis qui commence à mettre la main. On voit certains grands joueurs, notamment Canopy Growth, basé à Toronto. On voit Aphria, basé dans l'Ouest. On voit Organigram, basé au Nouveau-Brunswick. Donc là, je vous en ai nommé trois. Il y en a à peu près 10 gros joueurs au Canada qui commencent à vraiment se démarquer. C'était à prévoir. Ça arrive. Ces gros joueurs-là, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ces gros joueurs-là arrivent avec beaucoup de capital, d'énormes ressources, arrivent avec une crédibilité. Ces gros joueurs-là, en fait, permettent d'être sur la bourse. Juste le fait que le cannabis est rendu à la bourse, c'est pour moi un énorme milestone dans la déstigmatisation de cette industrie-là. Donc voilà à peu près un portrait, grosso modo, là, de ce qui se passe au Canada
Et les petits producteurs, est-ce que n'importe qui peut se dire « j'ai envie de produire du cannabis, puis le vendre ». Est-ce que tout le monde peut faire ça ou...
Pas en ce moment, pas du tout, j'en rêve. Tu sais, là, j'ai fait moi-même l'avocat du diable en démontrant pourquoi des gros joueurs s'en emprunt, puis pourquoi ils existent. Mais je suis le premier à défendre, en fait, le modèle de microbrasserie, le modèle du microproducteur. Santé Canada a annoncé un modèle de micro-licence qui devrait arriver dans les 3-4 prochains mois en vigueur. J'en rêve que ça soit accessible pour les Québécois. Je crois en fait que le futur du cannabis de qualité réside justement dans les micro-productions, où est-ce qu'on va être capable d'aller nicher une variété très spécifique, mais produit par quelqu'un qui l'a à cœur. Et puis, on le voit, en fait, les Québécois aiment le modèle des micro-brasseries. C'est évident qu'on va aimer ce même modèle-là, justement, de micro-producteur. Ensuite de ça, le défi, c'est comment Santé Canada l'implante. Rappelons qu'on légalise pas juste le cannabis à l'échelle provinciale, mais bien à l'échelle national pour un pays complet. Donc, on doit suivre des procédures. On doit aller step by step pour avoir une bonne implémentation. Et des fois, Santé Canada, dans la façon dont on bâtisse le programme, compromettent un peu les petits joueurs.
Comment est-ce qu'ils compromettent les petits joueurs? Est-ce que c'est...
La barrière à l'entrée, elle est très haute en termes de... souvent en termes d'éducation, en termes de compétences, puis aussi en termes de capital nécessaire pour démarrer ou appliquer une licence. En ce moment, appliquer pour une licence commerciale de cannabis, il faut avoir plusieurs millions de dollars en banque pour être capable de tenir le coup puis de survivre.
Parlons consommation. Est-ce que ça va être limité géographiquement, la consommation? Est-ce que moi, je peux aller au parc puis fumer mon bat tranquillement?
J'ai pas la liste par cœur. C'est au Québec, spécifiquement, les endroits où est-ce que ça sera légal de consommer est assez limité. Je veux pas me mouiller parce que là, vraiment, j'ai un petit blanc, et pas spécifiquement par rapport au parc. Mais en gros, on peut grosso modo se fier aux mêmes critères qui sont appliqués pour le tabac.
Comme pour les produits du tabac, il sera permis de fumer dans les lieux publics, mais à une distance de 9 mètres des portes des édifices. Seules exceptions, les écoles et les lieux de santé où l'interdiction est complète. La moitié des profits de la vente, au minimum 25 millions de dollars pendant 5 ans, seront investis en prévention et en éducation sur la consommation de marijuana. Québec estime à près d'un demi-milliard de dollars le marché du cannabis.
Il y a un gros buzz, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, un gros buzz sur un autre composant du cannabis qui n'est pas le THC, qui est le CBD, le CBD. Pourquoi est-ce qu'il y a un buzz aussi grand autour de ça? C'est quoi?
Super belle question. Répondre rapidement à la question, le CBD est une molécule extrêmement prometteuse dans un but de santé naturelle. C'est une molécule qui interagit de façon très peu nocive avec le corps et puis que le cannabis sécrète. Je vais faire quand même une petite bulle de présentation. Le cannabis sécrète deux familles de molécules. Sécrète les cannabinoïdes, notamment le THC et le CBD, et les terpènes. Les terpènes sont sécrétées par tous les fruits, tous les légumes, tous les plantes, et c'est ce qui donne l'arôme, la saveur du cannabis et des fruits. Donc, revenons aux cannabinoïdes. Le THC, le plus connu, le plus produit par la plante de cannabis, celui qui est reconnu pour son effet d'euphorie et l'effet du high. Le CBD, en contrepartie, n'offre aucun effet d'euphorie. Donc, en gros, ça revient à dire que si on consommait du CBD pur tout seul, on n'aurait pratiquement pas d'effet. Donc, pourquoi le consommer? En fait, les deux propriétés les plus attrayantes du CBD sont son pouvoir à anxiolytique pour gérer l'anxiété, et c'est un puissant anti-inflammatoire naturel. Donc, si on découple, en fait, je vais te donner deux applications assez faciles. La première, en fait, on connaît tous quelqu'un qui, lorsqu'il consomme du cannabis, a un peu d'anxiété induite par le cannabis ou un peu même de paranoïa. Donc, si on consomme une variété de cannabis qui contient aussi du CBD, on devrait donc, l'effet psychoactif va être notamment réduit. Donc, remettre ça à une autre comparaison, un cannabis avec 10% de THC et un cannabis avec 10% de THC et 10% de CBD, la deuxième variété contenant du CBD va filer beaucoup moins immersive, beaucoup plus facile peut-être à handle dans un but de consommation, surtout dans un point de vue social. La deuxième application, en fait, c'est tout au niveau de l'inflammation. Donc, on peut voir des produits de CBD. Lorsqu'on pense à la légalisation, on va voir des produits CBD pour les athlètes, pour gérer l'inflammation après l'effort. On va voir des barres tendres de CBD. On va voir des huiles de CBD. Et l'application la plus couramment connue que tout le monde peut aller chercher sur Internet, c'est de voir, en fait, l'effet du CBD sur l'épilepsie chez les jeunes enfants, en fait. Donc, les jeunes enfants qui souffrent d'épilepsie vont souvent prendre jusqu'à une seule dose de CBD pour voir complètement leur crise, en fait, être éliminée ou réduite d'à peu près 90%. J'invite à tout le monde qui écoute le podcast d'aller voir là-dessus, c'est assez impressionnant.
On va passer maintenant au côté un peu plus sombre de cette légalisation. Déjà, est-ce que ça va permettre au marché noir de disparaître?
Oui, dans 20 ans. Non, dans 3 ans. C'est ça. Il y a aussi ce fantasme au Québec que je déplore. On a ce fantasme d'éliminer le marché noir. Oui, c'est l'idéologie de la légalisation. C'est le principe. Mais ça doit s'implémenter graduellement. Là, prenons l'exemple de l'alcool, prenons l'exemple du tabac. On a 100% éliminé le marché noir de l'alcool, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, on peut pas s'attendre que ça sera la même chose, que ça va être plus vite avec le cannabis. Il y a un énorme marché noir au Canada. Et contrer ça, ça va être petit à petit. Et tu vois, une autre chose que je déplore au Québec, on a ce fantasme de la guerre des prix. On pense qu'on va éliminer le marché noir en offrant du cannabis légal moins cher que le cannabis du marché noir. C'est pas comme ça qu'on va battre. Cette guerre va fonctionner sur la qualité, en fait. C'est en amenant des nouveaux produits, en amenant des produits qui sont beaux. C'est la peur des Québécois, mais il faut que les produits légaux soient attrayants. Il faut justement qu'on puisse faire du marketing. Il faut qu'on ait du packaging qui va donner le goût d'aller vers le marché légal et d'acheter ces produits-là, au lieu d'aller continuer à voir son drug dealer qui te vend moins cher puis qui est plus accessible. Donc, je voulais amener ça sur la table. Au Québec, on a justement, ça joue pas sur les prix.
Bah donc les emballages qui vont être neutres puis pas très attrayants, ça doit pas trop te plaire non plus.
Ma job, c'est pas d'être je fais avec les règlements d'acquisition qui est là, et c'est de les optimiser puis c'est de travailler autour de ça. Mais je crois que, et ça c'est pas juste pour mettre ça clair pour l'auditoire, c'est pas le gouvernement du Québec qui décide le packaging. Ça c'est de juridiction fédérale. Donc c'est partout au Canada, le cannabis, le packaging de cannabis, il va être laid. Il va être très simple. C'est une seule couleur, le logo de THC dans le coin, ton logo de ton brand doit être plus petit et le gros étiquette jaune avec toutes les warnings, tous les avertissements.
Comme le tabac.
Mais est-ce que le cannabis se compare au tabac? Pour moi, c'est absolument pas. On ne peut pas se permettre de les comparer. Grosse erreur que le Canada et le Québec fait présentement.
En revenant au prix, justement, est-ce que on a une idée des prix? Moi, j'ai lu 10$ le gramme, j'ai lu...
En ce moment, au Québec, la moyenne du marché noir est à 6$, légèrement en bas de 6$ le gramme. C'est le prix que le consommateur moyen va acheter. Donc, le Québec se positionne, en fait, comme je disais, il y a ce fantasme de la guerre des prix. Le Québec se fait un plaisir d'annoncer qu'on aura du cannabis, quelques variétés qui vont accoter ces prix-là. Donc, j'entendais une entrevue d'Alain Brunet à 98.5 il y a pas longtemps qui disait, il y aura des variétés taxes incluses à partir de 6$. Lorsqu'on parle du cannabis de Maitri, comme je disais, nous, c'est pas une guerre de prix, c'est une guerre de qualité. Nous, ce qu'on mise, et la qualité, ça a un prix. Notre cannabis va se tourner aux alentours de entre 9 à 13$ le gramme, dépendamment des variétés, dépendamment des produits. Et on sera pas les plus chers. On peut s'attendre à ce que le cannabis va monter jusqu'à à peu près 17-18$, dépendamment des produits.
Le gramme.
Le gramme, exactement. À compter aussi que là, on pense en dollars par gramme parce que on copie justement le marché noir. Mais lorsque le cannabis va se libéraliser davantage et qu'on va voir tous les produits dérivés, les edibles, qu'on va voir les joints électroniques, cette notion du dollar par gramme disparaît. Et on devient ça devient un consumer package goods, au même titre qu'on va acheter une boîte de céréales qui est un produit tout emballé. Donc là, ça va un peu refaire, en fait, la notion justement des prix pour les Québécois et partout au Canada quand ça va venir.
Produire un gramme de cannabis coûte 89 sous à Hydropothécary. L'entreprise espère vendre ce même gramme entre 2 et 3 $ à la Société québécoise du cannabis, qui le revendra aux consommateurs entre 7 et 8 $.
Justement, cette légalisation-là, est-ce que c'est pas juste un truc pour les gens qui ont les moyens, pour les riches? Est-ce que c'est pas dire que justement des prix qui seront plus hauts vont permettre aux usagers qui ont les moyens d'aller dans un beau magasin acheter leur beau package de weed puis de rentrer chez eux légalement, sans problème, sans passer par un dealer, alors que les autres, eux, vont devoir passer par un dealer comme d'habitude, vont payer leur prix bas, sans contrôle de qualité ni rien du tout, vu que le prix sera plus haut.
Il y a pas de notion de riche-pauvre. Enfin, lorsqu'on regarde les statistiques de Statistique Canada, on se rend compte que la majorité des consommateurs quotidiens, les consommateurs chroniques de cannabis, ne se situent en fait dans une tranche de salaire pas très basse, mais inférieure à la moyenne. Et puis, la réalité, en fait, c'est que les gens qui consomment du cannabis au Canada, il y en a une tonne. Et ces gens-là sont partout. En fait, sont dans tout le spectre de salaire. Est-ce que au niveau du packaging, on vient de dire, en fait, le packaging va être laid, donc c'est pas une guerre qui se passe là-dessus. Est-ce qu'il y aura toute une gamme de prix? Décidément. Il faut juste aussi assumer qu'en légalisant une industrie, on demande à cette industrie légale-là de respecter des règlements, d'être compliant à la loi, d'avoir des structures. Une production de cannabis, en ce moment, ça ressemble pratiquement à une prison, une production légale. Il y a des frais à bâtir tout ça, il y a des frais à l'entretenir, à maintenir, donc ça se répercute dans le prix du cannabis. Celui qui est sur le marché noir n'a aucune contrainte, il peut faire ça dans son sous-sol, il peut utiliser l'engrais qu'il veut, il peut utiliser le pesticide qu'il veut, il peut faire quoi que ce soit pour le rendre plus beau. Ça sera, encore une fois, je ramène ça à la guerre des prix, ça sera jamais compétitif, on pourra pas compétitionner là-dessus. Et là, le choix de décider d'aller vers un modèle ou l'autre, ou de rester dans le marché noir, ce n'est pas une question là, de dire est-ce que je suis riche ou est-ce que je suis pauvre, quant à moi.
Tout à l'heure, tu me parlais de l'analogie qu'il ne fallait pas faire entre tabac et cannabis. Mais là, j'ai une étude de chercheurs à Toronto qui dit que l'industrie du cannabis légal utilise la même stratégie que l'industrie du tabac il y a 50 ans. En gros, ce qu'ils disent, c'est que ils sont en train de cibler les usagers quotidiens pour faire leur profit, qu'ils font du lobbying pour empêcher justement certaines réglementations sur les pesticides. Et que dans le Colorado, par exemple, ils étaient l'obstacle le plus important pour une réglementation du pesticide. Et on a l'impression, en fait, quand on regarde un peu cette industrie-là, que c'est très cool, très détendu, mais ça reste un business, avec ses côtés un peu négatifs. Qu'est-ce que t'en dis ? Est-ce qu'il faudrait pas mettre en place une éthique pour justement... rétablir un peu d'ordre dans cette nouvelle industrie?
En fait, je crois que l'industrie du cannabis est extrêmement contrôlée présentement déjà. L'industrie légale, on parle du gouvernement du Québec qui est le gouvernement du Canada qui serre la vis énormément. Rappelons, je pense que c'est important de rappeler en fait pourquoi on légalise le cannabis. On légalise pas parce qu'on veut développer une nouvelle industrie. On légalise le cannabis parce que la prohibition, c'est mal. Parce que la prohibition a été prouvée en fait que ce n'est pas un modèle viable. Après 60 ans, il y a aucun pays sur la planète qui a réussi à atteindre un pays sans drogue. Donc, dans cette optique-là, on légalise en fait pour éliminer le marché noir. On se dit, bon, mais maintenant qu'on a prouvé que ce n'est pas viable, la prohibition, ce qu'on va faire, c'est de légaliser. On va contrôler cette substance-là et de migrer le marché noir vers un marché légal et puis offrir aussi un produit de qualité. Et ces gens-là qui sont quotidiens, ils existent et ils se sourcent sur le marché noir d'un produit qui est pas nécessairement tout le temps de la bonne qualité. Donc au niveau de l'éthique, il y a une énorme éthique en fait dans cette industrie du cannabis là. On va rester ce court, mais le cannabis c'est une plante qui est consommée depuis des dizaines de milliers d'années sur la planète Terre. On parle des Chinois, des Indiens, des Égyptiens, et ça a toujours fait partie de la culture de l'humain en fait. Ça a fait partie de l'évolution de l'humain, et là on est en train de ramener ça, donc de dire qu'on de limiter, je crois que ça serait un peu du fascisme que d'aller plus loin que ce que le gouvernement fait déjà.
Est-ce que toi, tu as une attente vis-à-vis du prochain gouvernement par rapport à l'industrie du cannabis?
J'ai énormément d'attentes. En fait, je crois que on fait beaucoup de cheap politics au Québec en lien avec le cannabis. Je crois que je suis tanné en fait de voir la CAQ, les libéraux se lancer la balle pour ça. Il est temps qu'on arrête de faire des enfantillages par rapport à ça, puis qu'on prenne ça au sérieux. C'est une industrie qui mérite tout son sérieux. Mes attentes en fait, c'est, je crois que le Québec a déjà assez fait de dommages dans la façon dont on est en train d'implanter le système, avec le système tel que le public non commercial. On est la province qui est la plus conservatrice. On est la seule province au Canada qui ne va pas permettre la culture à la maison, qui est absurde. Donc moi, ma seule demande en fait suite aux élections, c'est s'il vous plaît, faites pas plus de gaffe. n'empirez pas plus votre modèle, parce que j'assume que c'est sûr que, en fait, en ce moment, on parle de la CAQ qui pourrait venir au pouvoir et qui sont encore plus prohibitionnistes que les libéraux. S'il vous plaît, faites juste pas toucher à ce que les libéraux ont fait, puis ça devrait bien se passer. Voilà. Merci, en fait, de m'avoir invité. Je pense que c'est important qu'on ait ces débats-là. Moi, mon plus grand souhait, en fait, c'est... Il y a une énorme expertise au niveau du marché noir au Québec. Je souhaite que cette expertise-là transfère dans le marché légal. Ça sera pas facile. Faut que le gouvernement arrête de voir cette industrie-là comme le démon. Il faut qu'elle l'embrasse parce que veut pas, ça l'arrive. Puis soyons juste matures la façon dont on l'aborde. Si on se retrouve pas à transférer le marché noir dans le marché noir va encore fleurir. Et don't get me wrong, quand je parle de marché noir, je parle de papa, maman, mon oncle, n'importe qui fait pousser ses 5 à 60 plants chez eux, qui fournit sa famille, qui fournit ses amis. En fait, c'est ça le marché noir au Québec. Le mythe du Hells Angels, il est presque désuet. Il n'existe plus vraiment. Et donc, voilà, inclure ce marché noir dans la conversation, s'il vous plaît. Ne pas faire plus de gaffes et puis considérer un marché d'un point de vue politique et considérer un marché privé.
Merci Phil. Merci également à Philippe au montage et à Bastien à la réalisation.
Une production Cube Radio.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode de On parle d'argent. J'espère qu'il vous aura détendu ou au moins informé. On se retrouve au prochain. C'était Saoud de Porte-Monnaie.